à toutes et à tous sur les ondes de Radio G 101.5 FM. Je suis ravie de vous retrouver dans l'émission Les Plantes Vagabondes, proposée par les adhérentes du Plantis à Écuyer, l'espace de coworking rural, collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Cette émission est animée et écrite par Claudie, ingénieur paysagiste conseil. Au fil des saisons, je vous invite avec Élise et Christelle à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la savoureuse carotte sauvage. Dans cette émission, vous verrez que la carotte est déjà présente dans votre vie de bien des façons, y compris sous la forme d'expression de la vie courante. Vous verrez qu'elle peut en plus vous apporter des effets bénéfiques dans votre vie. Face aux défis climatiques qui s'imposent à nous, la transition écologique nous invite à revoir nos modes de vie actuels, hors sol, déconnectés de notre environnement. Avant d'atteindre un point de non-retour et que les carottes soient cuites pour notre espèce, les pouvoirs publics et instances environnementales usent de la carotte et du bâton pour nous mettre en mouvement vers plus de sobriété. Pour certains réfractaires, ces changements signifient ne vivre que de carottes, rester sur sa faim et retourner à la pauvreté de nos ancêtres. Ce qui amène les questions suivantes. Et si la vraie richesse était dans la nature et les enseignements qu'elle nous procure gratuitement et généreusement? Et si une attitude humble et un mode de vie économe et un amour inconditionnel pour la nature et notre planète étaient tout compte fait une carotte efficace à portée de tous, un récit à partager à nouveau? Commençons par laisser la parole à Docus Carota, la carotte sauvage. La carotte sauvage fait partie de la famille des apiacées, comme d'autres plantes potagères, telles le céleri, le panais, le fenouil, la coriandre ou encore le persil. Une famille réputée pour ses résines et ses essences odorantes aux parfums incomparables. La carotte affectionne les milieux chauds, secs et ensoleillés, d'où sa qualification de plante thermophile. Autant dire que les carottes ont adoré l'été sec que nous avons vécu. Comme en témoigne la multitude d'ombelles blanches observées dans les prairies et sur les bords des chemins, une vague blanche et odorante sans précédent. Si on cultive de préférence la carotte dans les sols sableux des Landes ou des bords de Loire, pour permettre la récolte mécanique en tout temps et éviter la formation de racines déformées, elle pousse naturellement plus volontiers dans les sols argileux, car plus nourricier et rétenteur d'eau. Plante annuelle et parfois bisannuelle, la carotte passe la première partie de sa vie à développer sa racine pivotante et y stocker les réserves qui lui permettront de fleurir dans l'année ou l'année suivante. Il est donc préférable de consommer sa racine avant l'apparition de la tige florale pour bénéficier du maximum de ses effets nutritifs. Les réserves sont acheminées depuis le feuillage finement denté et découpé. Les feuilles sont dites composées pennées, c'est-à-dire avec des folioles réparties le long de l'axe central de la feuille, un peu à la manière de plumes sur une flèche. Les touffes de feuilles odorantes peuvent atteindre 50 cm et se reconnaissent grâce à l'effluve de carottes dégagées dès qu'on les froisse. La très vaste famille des apiacées comprend aussi des variétés très toxiques, comme la grande ciguë, qui servit notamment à empoisonner Socrate. Pour éviter la confusion et le risque d'empoisonnement, il faut savoir que, outre leur odeur caractéristique de carotte, le feuillage des variétés comestibles est aussi poilu sous leur face inférieure. Une fois les réserves stockées et la racine arrivée à maturité, la carotte peut entamer la phase reproductive de son cycle en émettant une tige florale pouvant, elle, atteindre 1,50 m. Les fleurs blanches minuscules sont regroupées en ombelles qui ont donné l'ancien nom de la famille, les ombellifères. Un nom que je préfère d'ailleurs. Ces inflorescences gracieuses s'agitent telles de petits parasols si reconnaissables dans la nature. À la fin de l'été, une fois la mise à graines terminée, l'inflorescence se replie sur elle-même pour prendre la forme d'un nid d'oiseau. En fonction de l'humidité ambiante, la plante ouvre ou referme son nid. De cette façon, elle libère progressivement ses petits pour augmenter leurs chances de germer. Les graines sont pourvues de petits crochets qui leur permettent de se fixer sur le pelage des animaux et ainsi de voyager pour suivre leur vagabondage. Avant de poursuivre la découverte de la carotte, je vous propose un intermède en chaussons avec le chant des carottes par Bou.
C'est le chant des carottes qui nous appelle du fond du jardin. Les carottes ont la cote et elles nous font un joli teint. Ramdam dans le potager, le jardinier tout affairé ne voit pas.
La consommation de la carotte et du panais date d'au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Comme c'est le cas pour beaucoup de plantes sauvages, des semences de carottes ont été retrouvées dans des habitations préhistoriques datant de 4000 à 5000 ans. Une vue exceptionnelle alliée à un sens de l'observation très développé ont largement contribué à la survie et au développement de l'espèce humaine sur Terre. Les jolies ombelles de la carotte n'ont pas pu échapper à l'acuité de leur regard. Jusqu'au XVIe siècle, la carotte consommée est blanche ou jaune et plutôt fibreuse. Elle est beaucoup moins tendre que celle que nous consommons aujourd'hui comme légumes. Connue des Grecs et des Romains, qui consomment les carottes sauvages avec une racine blanche, grêle et ligneuse, les Germains et les Slaves l'utilisent bien avant l'arrivée des légions romaines. Au Moyen Âge, on l'emploie comme condiment ou comme plante aux vertus, ainsi qu'en témoigne cet avis de Hildegard de Bingen au XIe siècle. La carotte n'est ni utile ni dangereuse pour la santé, mais elle emplit le ventre de l'homme. En 796, l'empereur Charlemagne ordonne la rédaction du capitulaire de Vinlis pour réglementer entre autres la culture des plantes. Le capitule 70 recense 88 plantes dont la culture est ordonnée dans les jardins royaux. Elles sont destinées à nourrir, à soigner et à habiller la population. Une version beaucoup plus complète et ambitieuse au passage que nos projets alimentaires territoriaux actuels et à l'échelle européenne en plus. Bon, pour la petite histoire, ce sont les Francs qui ont eu le plus de mal à se mettre au potager. La plupart des plantes sont déjà citées par Pline l'Ancien dans son œuvre intitulée Naturalis Historiae Libri et par Dioscoride. La liste du potager de Charlemagne comprend 42 variétés potagères, 29 variétés fruitières et 30 médicinales, dont la carotte fait partie. En Angleterre, on nomme la carotte dentelle de la reine Anne. La légende raconte qu'au XVIIe siècle, l'épouse du roi Jacques Ier, la reine Anne, en voulant créer une dentelle aussi belle qu'une fleur, se piqua malencontreusement le doigt. Une goutte de sang rouge tomba au centre de la dentelle, évoquant ainsi l'inflorescence blanche finement découpée de la carotte, qui a souvent la particularité de présenter en son centre une minuscule fleur rouge. La carotte de couleur orange que nous connaissons aujourd'hui fait son apparition dans les cultures aux Pays-Bas, au XVIe siècle. Les Hollandais sont de très bons jardiniers déjà à l'époque. Il semble que l'apparition de la couleur orange soit fortuite et se soit ensuite répandue dans toute l'Europe sous le nom de longue orange. En France, il faut attendre le Premier Empire au début du XIXe pour que sa culture soit plus généralisée. La réputation de la carotte sauvage a la vie dure. Il faut dire que la germination de la carotte n'est pas aisée. Beaucoup de jardiniers peuvent en témoigner. Une légende populaire en Franche-Comté l'évoque ainsi. « Comme tes carottes sont longtemps à germer, c'est qu'elles vont 6 mois en enfer avant de sortir de terre. » Alors, qui est la meilleure? La carotte sauvage ou la cultivée? Allez, un petit poème lu par Christelle pour nous aider à réfléchir.
Monsieur Lapin et Dame Carotte, un poème de Raymond Grison. Dame Carotte naquit un jour dans un champ cultivé, d'une graine solide, dans un catalogue sélectionné. Alignée parmi ses sœurs, elle ne pouvait que prospérer, partageant un espace calibré, arrosé et fertilisé. Une intruse s'est permise de s'installer à côté, échappant à la vigilance implacable du jardinier. Ce fut une quelconque graine, par le vent apportée, qui près de cette colonie quasi militaire avait germé. Un matin, Monsieur Lapin, sautillant dans ce beau jardin, dans la fraîche brume, sentit monter sa faim. Il s'approche et s'arrête face à cette colonne de légumes croquants dont la verdure foisonne. Dame Carotte, placée à l'extrémité du rayon, semblait cultivée et dotée d'une grande raison. « Non, monsieur Lapin, ne consommez pas mes fans. Parmi cette assemblée, je suis de vous l'unique fan. Trop sucré pour votre goût, ma couleur orange tacherait votre jabot. Il se peut que cela vous dérange. Je ne suis pas une carotte si sotte. Qu'on arrache à la terre et qu'on décrotte. Examinez plutôt ma sauvage voisine, une céleste douceur d'une plus profitable médecine et dont la chair est gorgée de bonnes vitamines. Laissez donc aux humains leur ignoble cuisine. » Monsieur Lapin, interloqué par ce discours inattendu sur la racine rustique, reporta son dévolu. Par cet acte, non calculé, il épargna celle qui dans le sol étendait tranquillement ses radicelles. Et malgré son appétit grandissant et sa convoitise, il respecta celle qui par l'amitié fut conquise, la laissant même fleurir, s'abriter sous l'ombelle et donner au jardin cette beauté artificielle. la terre polluée n'apporte pas de vitamines, mais nitrates et pesticides aux étamines, qui font périr l'abeille, laquelle achemine vers la ruche à sa reine ses toxiques protéines. Tout ce qui est sauvage est pur et beau. Consommer des produits naturels, il te faut. Pour une longue vie, rejette les denrées par la chimie ou la génétique modifiée.
Poursuivons notre découverte de la carotte avec ses propriétés thérapeutiques et alimentaires. Le goût sucré de la carotte ne vous aura pas échappé car elle est naturellement riche en glucides. Elle contient en grande quantité la vitamine B, C, D, E, ainsi qu'une molécule particulière, le bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, utile à la prévention de la rétine et à la protection de la peau. Elle régule le transit intestinal, tantôt réduisant la constipation, tantôt calmant au contraire les diarrhées. Une double efficacité garantie dans tous les cas. Toutes ces caractéristiques font de la carotte un aliment exceptionnel pour les jeunes enfants comme pour les personnes âgées. Ses qualités ne s'arrêtent pas là, car elle facilite aussi l'élimination de l'acide urique. Ses propriétés anti-inflammatoires agissent pour les personnes souffrant de rhumatisme ou de gouttes. En clair, manger des carottes sans limite, en purée, en soupe, en gratin, en salade, dans des cakes, à l'apéro, toutes les possibilités s'offrent à vous. De nombreuses recettes lui doivent leur saveur, comme le célèbre bœuf carotte, le pot-au-feu ou encore le couscous. Mais revenons à la carotte sauvage, dont toutes les parties sont comestibles. Les fleurs sont délicieuses en beignet ou en salade, les racines jeunes avant floraison se consomment râpées comme condiment dans les potages ou les sauces. C'est d'ailleurs cette utilisation râpée qui a sans doute donné la forme de carotte bien connue et très ancienne de l'enseigne rouge des buralistes, car depuis le XVIe siècle, le tabac se vendait en rouleaux de feuilles que l'on râpait pour le consommer. Les graines, très aromatiques, parfument les salades. Elles ont des vertus digestives très appréciées. Les feuilles de carotte sont délicieuses dans un potage ou une soupe, ou même dans une quiche d'ailleurs. Demandez à votre maraîcher de les garder lorsqu'elles sont primeurs. Il est temps de terminer cette émission avec la chronique « Le bonheur est dans les simples » avec Élise.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique « Le bonheur est dans les simples ». Je suis Élise Lapouelle, je suis adhérente professionnelle du Planty en tant qu'accompagnante du féminin et facilitatrice d'espaces de ressourcement. Et vous me trouverez sous le nom de Lune et d'Or. Voilà, j'avais envie de vous partager pour cette nouvelle petite rubrique une poésie, qui est une poésie d'automne, qu'a écrite Séverine Perron, qui a en fait écrit un très beau livre, un livre magnifique, qui s'appelle Alchimie végétale, initiation à la sagesse des plantes, rituels et préparations, aux éditions Houellebecq. Et donc là, en fait, actuellement, on se trouve dans la première période de l'automne, que Séverine nomme automne de l'abondance. Et voilà. Je vais vous lire la poésie qu'elle a écrite pour cette période et je vais vous laisser infuser par ces mots merveilleux. Et voilà, je vous souhaite une belle écoute. Ressens la terre, petite indienne, notre terre mère, toi qui es venue aux prémices de l'automne, où tout est harmonie, quand la lumière commence à descendre du ciel vers les forêts et montagnes. Comptez combien les graines sont essentielles à protéger pour demain. Dans notre cœur, bien au chaud, le temps d'un rêve, d'un éclat de soleil que tu manges, assise, tes nattes au vent. Tu es petite flamme, je suis terre qui nourrit, celle qui permet à tout de vivre, d'espérer. Tu es celle qui porte et protège. Je suis ton clan et ta lignée, ton territoire. Tu es celle qui porte en ses mains le cœur de la terre, comme l'ont fait ta mère, ta grand-mère et toutes ces lignées de femmes avant toi. Tu es cette lueur de vie que toutes les feuilles embrasent de cette parure d'or avant de retourner à notre terre-mère, dessinant cette empreinte d'amour sur toutes les feuilles que tes crayons caressent. Tu es amour, petite indienne. La vie s'échappe de toi comme une cascade rieuse, abondamment, devenant fleuve généreux et ondoyant pour finir vaste océan. Ne jamais cesser de croire, ne jamais cesser d'aimer. Merci. Et à bientôt dans une nouvelle rubrique du Bonheur est dans les simples.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission à la découverte des plantes vagabondes sur radio-g.fr ou lors de sa rediffusion mardi 25 octobre à 21h. Si vous avez aimé, partagez ce moment nature, faites passer le message autour de vous. C'était Claudie sur Radio G101.5 FM. Élise, Christelle et moi vous donnons rendez-vous samedi 4 novembre à 13h pour vous faire découvrir les vertus insoupçonnées du millepertuis.